Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans Culture Monde, votre magazine international que vous retrouvez du lundi au vendredi sur France Culture. On est ensemble jusqu'à midi, une émission préparée ce matin par Antoine Dulster et Bertille Bourdon, mais aussi Mélanie Chalandon et Nicolas Sendé, réalisé par Vincent Abouchard et mis en onde ce matin par Anthony Thomasson. Et comme chaque vendredi, on vous propose une table ronde sur un sujet d'actualité internationale qui va nous emmener ce matin du côté des États-Unis. Une table ronde en partenariat avec Le Monde, c'est Marc Semeau qui nous retrouvera tout à l'heure. Mercredi, alors que Donald Trump avait invité ses partisans à marcher sur le Capitole, ces derniers l'ont entendu et ont pénétré de force dans l'enceinte du Congrès. Joe Biden a dénoncé une insurrection. Un assaut contre la démocratie, demandant à l'actuel locataire de la Maison-Blanche d'exercer son rôle constitutionnel et de faire une déclaration pour appeler à la fin des violences, ce qu'il a fait, mais le mal était fait. Et plus que jamais, l'inquiétude pèse sur le devenir de la démocratie américaine. Car en effet, si finalement la victoire de Biden a bien été entérinée par le Congrès et que la transition aura bien lieu en bon ordre, comme l'a promis Trump, cette colère qu'on a vue se déployer d'une manière inédite continuera de déstabiliser le jeu politique, malgré la victoire des candidats du Parti démocrate dans le scrutin partiel en Géorgie, qui leur donne la majorité au Sénat. Et qui offre donc une marge de manœuvre politique pour le futur mandat de leur champion. Alors que nous révèle cette séquence où la démocratie américaine a vacillé, comment Trump et ses partisans pèseront dans le jeu politique de demain ? Le populisme américain a-t-il dit son dernier mot ? C'est la question qu'on se posera tout à l'heure avec deux invités, Tamara Boussac et Laurie Kenton, qu'on retrouvera dans une vingtaine de minutes. Mais d'abord, comme chaque vendredi, place à notre retour d'eux en partenariat avec l'association des prix Albert Londres. Le journaliste qu'on reçoit ce matin nous revient du Niger. Bonjour, c'est Léon Massé.
Bonjour.
Merci d'être avec nous ce matin. Vous êtes journaliste à Libération. On vous reçoit pour une série de reportages consacrés au Niger. Vous êtes resté une quinzaine de jours sur place. Alors, je rappelle peut-être pour les auditeurs que le pays est en plein deuil national aujourd'hui, après cette terrible attaque dans deux villages de l'ouest du pays qui ont fait une centaine de morts. C'est le plus lourd bilan pour une attaque djihadiste dans cette zone, la zone dite des trois frontières. On est là aux confins entre le Niger, le Mali et le Burkina, on est en plein Sahel. Et puis par ailleurs, le pays est aussi en pleine élection présidentielle. On a un président sortant, Mahamadou Issoufou, qui n'a pas brigué de nouveau mandat après 10 ans de pouvoir et qui offre donc au pays la perspective d'une transition politique. On va le voir, le premier tour s'est déroulé le 27 décembre dernier avec la victoire du grand favori Mohamed Bazoum, qui est le dauphin d'Issoufou. On verra ce qui se passera, ce qui peut se passer pour le second tour. Mais d'abord, évidemment, il faut commencer peut-être, c'est lié en massé avec cette actualité, cette attaque, je le disais, dans l'ouest du pays, qui a eu lieu exactement au moment où étaient proclamés les résultats du premier tour de l'élection présidentielle. C'est difficile de ne pas y voir un lien direct. C'est une attaque et clairement un message envoyé par les groupes djihadistes au pouvoir central de Niamey.
Alors pour l'instant, il n'y a pas eu de revendication formelle sur cette attaque. Donc on va se garder de toute conclusion. Il n'y a pas que la logique des élections pour les djihadistes. Évidemment, on le sait, ils sont opposés aux élections qui font partie de la mécanique d'une démocratie que les djihadistes rejettent. Mais là, c'est dans une logique très globale. En fait, il y a aussi, à chaque fois derrière ces attaques, des raisons très locales. Et une semaine après, on commence un peu à démêler ce qui s'est passé à Tchoma-Bongou et Zarouma-Darey. Donc, c'est les deux villages en question. Il semble pas que ça soit directement lié aux élections, mais que ça soit des questions malheureusement classiques de villages qui sont considérés comme proches des forces armées ou proches du gouvernement parce qu'ils ont donné des informations, parce qu'ils ont collaboré, et que ça pourrait être des représailles pour intimider la population.
Il n'y a pas encore eu de revendication, mais en revanche, on a peut-être une idée de qui pourrait être derrière. On a des candidats malheureux, malheureusement, pour ce type d'opération.
Absolument, on est dans la zone d'opération privilégiée de l'État islamique au Grand Sahara, donc une filiale de l'État islamique, de Daesh. En fait, les villages concernés, ils sont tout proches d'un autre village qui est tristement célèbre, c'est Tongo Tongo. En octobre 2017, il y avait eu 4 soldats américains des forces spéciales et 5 soldats nigériens qui étaient tombés dans une embuscade, qui avaient été tués à Tongo Tongo. Et ça, c'était une date importante parce que c'était un peu déjà pour l'État islamique dans cette partie du monde, c'était un peu un acte fondateur. C'est là qu'on a commencé à connaître l'État islamique au Grand Sahara. Et en plus, ça signait pour le Niger la première alerte dans cette région-là, la région des trois frontières que vous avez mentionnée. Tout d'un coup, on se rendait compte que les djihadistes étaient capables de frapper et de frapper fort.
On va revenir, Célian Massé, sur cette menace djihadiste, mais penchons-nous peut-être sur ce processus électoral. Le jour de l'élection, vous vous êtes rendu dans un bureau de vote de Niamey, dans le bureau un bureau du nord de la capitale, le bureau numéro 205. On est là dans une école de Banifondo. Vous racontez comment, non loin d'un marché, dans une salle de classe, les choses s'organisent avec un superviseur qui dispose le matériel, les bulletins, les urnes, l'isoloir. On a là des observateurs de différents partis. Et vous racontez comment, à l'ouverture du bureau, les gens viennent, se mettent en file et commencent à aller voter. Et le tout dans un calme particulièrement notable. En fait, contrairement à ce qu'on pourrait penser avec ces attaques qu'on vient de mentionner, les choses se sont passées de façon assez sereine. C'est ce qui transparaît dans vos différents reportages.
Oui, ça, je pense qu'il faut quand même le rappeler, parce que c'est vrai qu'on a tendance à avoir une lentille un peu déformante quand on entend parler du Sahel, parce que c'est toujours avec le prisme des attaques terroristes, djihadistes, etc. Le Niger, dans l'immense majorité des bureaux de vote, à part quelques endroits dans la région de Diffa, près du Nigeria, et donc dans la région des Trois Frontières, a pu voter dans des conditions satisfaisantes. À Niamey en particulier, moi j'avais justement choisi ce bureau de vote-là que vous mentionnez, dans la banlieue nord, parce que c'est pas un quartier en vue, quoi. C'est pas un quartier riche, c'est pas non plus un bidonville d'ailleurs, mais ça fait partie de ces quartiers de Niamey, relativement pauvres, mais pas non plus dans l'extrême pauvreté.
Oui, et puis plutôt favorable à l'opposition d'ailleurs.
Plutôt favorable à l'opposition, comme partout à Niamey. Et le vote s'est déroulé dans le calme, et les gens étaient fiers de ça. Il faut rappeler que on n'est pas tout à fait au bout du processus, parce qu'il y aura un deuxième tour, mais que c'est la première fois dans son histoire que le Niger va connaître une alternance pacifique et démocratique entre deux présidents élus. Ça, c'est pas rien. Et c'est particulièrement notable en 2020. Je pense que le président sortant, Mahamadou Issoufou, a un peu bénéficié de ça aussi. On est dans une année où il y a eu beaucoup de polémiques sur les troisièmes mandats, et le contraste avec Alpha Condé en Guinée ou Alassane Ouattara en Côte d'Ivoire, où les élections ont été contestées, où ce sont deux présidents qui se sont accrochés à un troisième mandat alors que la Constitution, a priori, ne le permettait pas. Issoufou, lui, à côté, a l'air très clean, en fait, d'une certaine façon. Il laisse le pouvoir au bout de ses deux mandats, comme il s'y était engagé.
Mais pourquoi ? Parce qu'il veut précisément rassembler les conditions d'une transition politique et pacifiste ? Ou est-ce que en réalité, il n'avait pas le choix, il n'avait pas la possibilité politique de se représenter. Pas constitutionnel, ça c'est clair, évidemment, mais la possibilité politique.
Alors, je ne le connais pas assez personnellement, je ne suis pas dans la tête de Mahamadou Issoufou pour savoir ce qui l'a conduit à faire ça, mais je ne crois pas que c'était une question de possibilité ou pas de passage en force. C'est quelqu'un qui a toujours promis ça, qui s'était engagé à pas aller au-delà de ses deux mandats. En fait, c'est quelqu'un qui a longtemps été aussi, il faut le rappeler, dans l'opposition, qui a été un combattant à l'époque de l'opposition, etc. Son parti, le PNDS, a été un parti qui a pas mal été réprimé à une époque. Et donc, il sait ce que c'est que l'alternance. Il a tellement combattu pour. Donc, il voulait un jeu relativement démocratique.
Et est-ce qu'il faut comprendre, Célian Massé, qu'on a aussi un président qui, en réalité, respecte l'opposition et rassemble les conditions d'un jeu démocratique libre et transparent? Parce que le chef de l'opposition, vous le racontez dans un de vos papiers, Ama Amadou, il a quand même pas été autorisé à concourir. Alors, certes, c'est lié à une condamnation à un an de prison qui remonte à quelques années, mais c'était le plus grand rival, en théorie, de Mohamed Bazoum, qui est le dauphin d'Issoufou. Donc, c'était tout à fait juste qu'on l'autorise pas à concourir, ou il y a quand même une utilisation de la justice à des fins politiques?
Alors, vous avez raison de le rappeler, c'est pas parfait. Certes, il y a une alternance, c'est bien, c'est salutaire tout le monde, mais une fois qu'on a dit ça, il faut quand même être lucide. Hier, on a eu une bonne illustration du fait qu'on n'était pas dans un fonctionnement démocratique idéal. Un journaliste, le directeur de publication du journal L'Événement, qui avait révélé l'an dernier un énorme scandale de corruption qui visait des surfacturations au ministère de la Défense, s'est vu convoqué et susceptible de poursuites judiciaires. Le principal opposant, vous l'avez rappelé, a été écarté de la course présidentielle. des opposants, des activistes de la société civile ont fait de la prison l'an dernier pour avoir voulu manifester contre la corruption. Donc pas d'angélisme non plus. Le régime d'Issoufou, c'est un régime qui contrôle absolument la société civile et qui a fait en sorte que l'opposition soit très affaiblie pour ce côté. Moi, j'ai rarement vu une telle disproportion de moyens, d'ailleurs, dans la campagne entre le parti au pouvoir et ses opposants.
Alors, Sélian Massé, je le disais dans mon introduction, le dauphin d'Issoufou est arrivé en tête avec 39% des suffrages exprimés, 17% pour son poursuivant direct. Donc c'est un très bon score, mais il n'est pas parvenu à gagner. C'est ce qu'il visait. Hein. Il visait le coup KO. Il n'y aura pas de coup KO, mais comment ça se présente pour le second tour? Quand on regarde un peu les choses, alors moi j'ai regardé les scores qu'on a obtenus sur le premier tour, et quand on additionne le score des quatre poursuivants, on obtient exactement, ça c'est la magie des chiffres, le score de Bazoum, c'est-à-dire 39%. Donc ça veut dire qu'en théorie, on pourrait éventuellement avoir un front anti-Bazoum qui pourrait permettre d'éviter sa victoire au second tour. Est-ce que c'est un scénario qui est envisageable? Est-ce qu'on peut dire des choses sur la mécanique de report des voix pour l'instant c'est très difficile? Enfin, comment vous voyez les choses, vous, Sélian Massé?
C'est pas mathématique. Au Niger, c'est pas mathématique. Ouais. On peut pas additionner les numéros 2, 3, 4 et 5 et se dire qu'ensemble, ils feront autant que Bazoum. Parce que, déjà, les reports des voix au Niger sont pas du tout automatiques. Le respect des consignes de vote, il marche pas forcément comme ça. Il y a plein d'autres choses qui rentrent en compte. Et surtout, pour l'instant, il n'y a pas un front uni de l'opposition. Alors, vous l'avez rappelé, Ama Amadou, qui était l'opposant numéro un, le chef de file de l'opposition, qui est très populaire à Niamey, lui, il avait appelé à voter pour Mahamat Ousmane, qui a fait 17%, qui est deuxième, donc qui va arriver au second tour. Mais ceux qui arrivent derrière lui au premier tour, c'est Niou Marou, Albadé Abouba. Eux, ils n'étaient pas dans cette coalition. Donc, il n'y a rien d'automatique. C'était même des gens qui étaient relativement proches du pouvoir, puisqu'ils ont été ministres, ou ils ont été pour Albadé Abouba, ou pour Oumarou, il avait rejoint la majorité présidentielle. Donc, il va y avoir des tractations. Et on sait très bien au Niger que, et c'est pas spécifique au Niger, hein, que les tractations importeront pas vraiment sur le programme du gouvernement ou sur l'IO2.
Ouais, c'est des promesses de poste, campagne, beaucoup. C'est
absolument.
C'est des promesses de poste.
Des promesses de poste, de financement, de chacun essaie de placer son parti ou ses hommes dans les cercles du pouvoir.
Bon, ça, c'est pas spécifique au Niger. Faisons l'hypothèse, Sélian Massé, parce qu'elle reste quand même la plus probable, d'une victoire de Mohamed Bazoum. Quel est son projet politique? Est-ce que c'est peu ou prou le même que l'actuel président Mamadou Issoufou? On aura à peu près la même chose, et puis on va se pencher ensuite en particulier sur la question des insurrections islamistes. Il va falloir regarder si la lutte contre le djihadisme pourrait connaître une rupture avec l'arrivée éventuellement de Bazoum.
Alors sur son projet, Bazoum, il s'inscrit, il s'en cache pas du tout dans la continuité d'Issoufou. En fait, lui, c'était un rouage, c'était même le rouage principal des deux mandats de Issoufou. Il a été ministre des Affaires étrangères dans un premier temps, ministre de l'Intérieur dans un second temps. Très proche, c'est un ami hein, du président. Ils ont été camarades de lutte ensemble, ils ont accédé au pouvoir ensemble. Donc leur projet, c'est vraiment un projet commun. Donc lui, il assume complètement. Ensuite, sur la question dont vous me parliez de la lutte antiterroriste, Bazoum veut mettre l'accent sur quelque chose qui lui appartient peut-être. J'en ai parlé plusieurs fois, à plusieurs reprises avec lui pendant la campagne. C'est la question du recrutement de personnel local dans la garde nationale pour lutter contre le djihadisme. Je m'explique. Lui, il dit cette phrase « on ne tue pas une mouche avec un marteau ». Ce qui veut dire les djihadistes, ils connaissent très bien le terrain, ils sont très mobiles, et ça sert à rien d'avoir des colonnes de blindés qui sont visibles à des kilomètres à la ronde. C'est pas vraiment à l'armée, avec ses gros moyens et ses gros sabots, de lutter contre les djihadistes. On est face à un phénomène d'implantation très local, et pour ça, il faut des gens qui connaissent le terrain. Pas que physiquement, hein, pas que le relief, la brousse, etc., ouais. Mais aussi les populations qui connaissent les gens des villages, qui ont des informations, etc. Donc, partant de cette réflexion, lui, il a voulu, et il a lancé d'ailleurs, recruter 500 jeunes dans la région de Diffa et dans la région de Tillabéri, qui sont formés, qui sont en train d'être formés et qui vont être déployés sur le terrain. On ne sait pas encore ce que ça va donner, mais s'il doit y avoir une idée associée à Bazoum dans la lutte contre le terrorisme, au-delà c'est du celle-ci. Classique renforcement militaire, ils ont parlé de doubler les effectifs de l'armée, c'est celle-ci, c'est celle de d'un recrutement local pour mieux combattre les djihadistes sur leur terrain.
Alors, on entend hein, que ça peut être une idée intéressante, sauf que quand on regarde ce qui a été fait à l'extérieur, je pense par exemple du côté du Nigeria, où on a tenté aussi ce genre de choses, c'est-à-dire en gros mettre en place des milices d'autodéfense, on a vu que le résultat n'avait pas été terrible. Et puis par ailleurs, cette adaptation, cette rupture dans la stratégie, on l'a déjà vu, c'est Lian Massé, du côté du Niger, puisqu'à la suite de deux très grosses attaques de casernes particulièrement meurtrières, on avait eu un gouvernement qui avait lancé une opération qui était baptisée Al-Madou, qui consistait précisément à privilégier des petites patrouilles très mobiles plutôt que la présence statique et très forte dans les casernes. Est-ce que cette stratégie-là, déjà, elle, sans parler des milices d'autodéfense, mais est-ce que cette stratégie-là avait porté ses fruits à l'époque ?
Alors, c'est l'opération Al-Mahou. Elle a porté ses fruits selon certains critères, c'est-à-dire qu'il n'y a plus eu d'attaque massive contre des camps militaires de l'armée. Parce qu'il faut se rappeler que tout ça était dans un contexte l'an dernier, en décembre 2019, et puis en janvier 2020, on a eu deux attaques terribles contre des camps militaires à Inates et à Shinagodar, qu'on fait à chaque fois, j'ai plus exactement les chiffres en tête, mais je crois que
71 morts et 89 ensuite.
Voilà, ouais. 71 et 89 morts. Et donc, il y avait besoin d'une réaction forte. On a complètement changé, vous avez raison, de stratégie. On a enlevé ces espèces de camps fortifiés qui attiraient en fait les attaques, et on l'a remplacé par des patrouilles mobiles. Alors, est-ce que ça a marché sur les attaques de camps militaires? Oui, parce qu'il n'y a pas eu d'attaque aussi massive. Mais par contre, ce que moi, on m'a dit à Niamey, et puis ce qu'on m'a confirmé quand je suis allé dans des villages du Télabéri parler à la population, c'est que les djihadistes, ils n'ont pas disparu. Au contraire, ils se sont implantés très localement, à côté des villages, où il y a des phénomènes de raquettes, notamment sur le bétail, qui sont permanents. Tous les villages de la zone, par exemple dans le nord de Tillabéri, sont soumis à du racket de bétail. Il y a des intimidations. On menace les chefs de village, on menace les enseignants, on menace parfois les gens qui travaillent dans les centres de santé. Et ça a continué. Et puis, l'illustration finalement définitive du fait que ça n'a pas vraiment marché, malgré ce qu'on a pu penser, c'est le massacre de Tchomabongou et Zaroumaderey le 3 janvier.
Oui, parce qu'il y a évidemment les djihadistes, mais il n'y a pas seulement malheureusement les djihadistes. On a aussi vu une augmentation des violences attribuées aux soldats nigériens. Par exemple, la Commission nationale des droits humains a notamment mené une enquête autour de corps qui ont été découverts dans la région d'Inates. Et visiblement, il semble que ces personnes auraient été exécutées par des éléments des forces de défense et de sécurité. C'est ce que vous rapportez dans l'un de vos papiers. Tout dernier point, peut-être, Lian Massé. On sait qu'évidemment, pour lutter contre les djihadistes, il y a évidemment le volet sécuritaire, mais il y a aussi le volet développement. Si on ne se soucie pas de l'amélioration de la situation économique et sociale des gens, on en fait des soutiens, voire carrément des acteurs directs de ces groupes djihadistes. Qu'est-ce qui a été fait en la matière avec Issoufou et qu'est-ce qu'on peut attendre avec Bazoum, si c'est lui qui est président, mais a priori on va plutôt vers cette option-là.
Peu de choses. L'éducation et la santé sont des gros points noirs de la gouvernance Issoufou. Alors, pour sa défense, là on parle du Niger, qui est le pays qui a la démographie la plus forte de la planète. On est avec 7,6 enfants en moyenne par femme. On a un pays qui a 23 millions d'habitants, qui a 70 millions d'habitants prévus en 2050. Et cette démographie galopante, en fait, dès qu'il y a des efforts de développement, ils sont souvent rattrapés par la démographie, quoi. Parce que vous avez beau créer des écoles, il en faut encore plus. Vous avez beau créer des centres de santé, il en faut encore plus. Et dans une zone soumise à autant de tensions que cette zone des trois frontières, parce qu'elle est à la convergence de plein de crises, en fait. Il y a une crise climatique, il y a une crise agricole, parce que cette pression démographique fait que on a une extension des parcelles cultivées, des zones à cultiver, et du coup, les cultivateurs entrent en conflit avec les éleveurs. Donc souvent, ça veut aussi dire des tensions communautaires. tout ça peut pas être séparé des questions terroristes, vous avez raison, parce que les groupes armés islamistes prospèrent sur ces conflits-là et sur ces lacunes en termes de développement.
Merci beaucoup, Célian Massier, d'avoir été avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes journaliste à Libération, qu'on peut retrouver vos excellents reportages sur le site de Libération. Je le dis vraiment, c'est la première fois qu'on vous reçoit ici à l'antenne de France Culture dans Culture Monde. On vous attendait depuis longtemps, on est ravis de vous avoir eu. Merci beaucoup.
Merci.
Page nigérienne, direction les États-Unis. Assaut sur le Capitole, le populisme américain a-t-il dit son dernier mot? C'est notre question ce matin.
France Culture, Culture Monde, Florian Delorme.
Puisque cette semaine, un parfum d'insurrection a plané sur les États-Unis, et en particulier du côté de Washington, où à l'appel de Donald Trump, certains de ses partisans ont pris d'assaut le Capitole.
We're going to walk down Pennsylvania Avenue and we're going to the Capitol.
Nous allons marcher sur Pennsylvania Avenue, nous allons au Capitole, nous allons reprendre notre pays.
Donald Trump a gagné le soir de l'élection. Ce à quoi nous assistons est une révélation complète de la corruption du système, la façon dont il a été corrompu. Et nous, en tant qu'Américains, nous reprenons notre système.
Et après le chaos provoqué par Donald Trump, le Congrès des États-Unis a finalement certifié ce jeudi la victoire de Joe Biden au beau milieu de la nuit. Et puis par ailleurs, cette validation s'est faite alors que la victoire des candidats du Parti démocrate dans l'État de Géorgie est confirmée, qu'il sera donc majoritaire au Sénat. Mais la victoire de Joe Biden est-elle totale? Comment ce noyau dur d'ultra-trumpiste se comportera dans les semaines, dans les mois qui viennent? C'est ce qu'on va essayer de comprendre avec nos invités. Tamara Boussac, bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes docteur en histoire et civilisation américaine à l'EHESS, enseignante à Paris 1. Laurie Kenton, bonjour.
Bonjour.
Merci également d'être avec nous. Vous êtes maître de conférences en civilisation américaine à l'université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Et puis Marc Semo, notre partenaire du Monde, est là aussi. Bonjour Marc.
Bonjour.
On va commencer avec vous comme on le fait chaque vendredi. Marc, ça fait 4 ans, hein, Marc, que les observateurs s'inquiètent des effets de la présidence Trump sur la démocratie américaine. Parfois précisément, ces effets ne sont pas directement visibles. Là, on les a vus d'une manière on ne peut plus ostentatoire. Et alors qu'on espérait, c'est vrai, que le départ de Trump, eh bien, signerait une forme de retour au calme, retour à l'apaisement. Cette démonstration de force de cette semaine nous montre qu'au contraire, tous les ingrédients sont là pour que l'Amérique post-Trump ne soit pas vraiment le havre de paix qu'avaient espéré en tout cas les démocrates.
Oui, c'est un risque bien réel, d'autant que l'assaut au Capitole par une foule d'émeutiers encouragés par un Trump clamant « ce n'est pas en vous montrant faible que vous récupérerez votre pays » est un peu le concentré de ce que fut pendant 4 ans une présidence dysfonctionnelle et démagogique qui a remis en cause les fondements même de la démocratie américaine. Mais celle-ci, heureusement, reste solide. Aujourd'hui, Donald Trump est plus déconsidéré et isolé que jamais, même s'il appelle maintenant à la réconciliation et promet une transition tranquille, son attitude a choqué une majorité d'Américains, à l'exception de ses hyper-partisans, et elle ressemble beaucoup à un suicide politique. Fort de ses 74 millions de voix, y compris venant des minorités noires et latinos, le président vaincu avait les moyens de peser sur la future présidence de Joe Biden. Il tient en outre en main une bonne partie des élus républicains qui n'osaient se dresser contre un leader bien décidé à prendre sa revanche en 2024. Maintenant, ce n'est plus le cas. Trump est-il fini? Et si oui, y aura-t-il un trumpisme sans Trump? C'est peut-être aujourd'hui la question. La société américaine reste toujours autant polarisée. Ce mouvement de rejet des institutions et des élites comme de la mondialisation a des racines profondes et pas seulement aux États-Unis, c'est aussi la mise en garde que faisait Emmanuel Macron. Mmh. Ce qui est arrivé à Washington n'est pas seulement américain.
Voilà, Marc Semo, vous avez parfaitement posé le cadre. Effectivement, l'une des grandes questions sur lesquelles on va se pencher ce matin, c'est de savoir si ce Grand Old Party va vouloir d'ailleurs, évacuer Trump et le Trumpisme. Mais d'abord, peut-être une première réaction un peu générale, Tamara Boussac et Laurie Kenton, sur ce qui s'est passé cette semaine, mercredi, parce que le monde entier a, c'est vrai, été assez abasourdi par ces images. Et en même temps, quand on regarde les choses a posteriori, c'est toujours plus facile de prévoir le passé, mais tout cela était parfaitement prévisible. Depuis très longtemps, on a cette journée qui est une date très importante pour Trump et les pro-Trump. Dès le 19 décembre, Donald Trump avait fait la promotion de cette journée. Il avait tweeté « Soyez là, ce sera sauvage !» Par ailleurs, quand on regarde aussi les réseaux sociaux, on voit aussi que ça faisait plusieurs jours que les pro-Trump s'échauffaient, disaient qu'ils seraient bien présents. Certains exhibaient même parfois des armes. En fait, Tamara Boussac, tout cela était parfaitement prévisible, Tamara Boussac, voire prévu même.
Oui, les manifestations à Washington, elles étaient organisées, elles étaient prévues. Il n'y avait aucune surprise quant à la tenue de ces manifestations. Comme vous l'avez dit, Donald Trump a jeté de l'huile sur le feu à l'approche de cette journée. Sur les réseaux sociaux, la mobilisation était très forte, donc il y avait une vraie anticipation. Et le jour même, bien évidemment, au cours des rassemblements organisés par Donald Trump, lui-même, donc vous l'avez rappelé, a appelé à ne pas céder à la faiblesse et à reprendre le pouvoir. Dans un sens, mais là où je pense qu'on a quand même été surpris, c'est de voir que ces manifestants ont réussi à aller aussi loin. C'est-à-dire qu'il y avait des manifestations, qu'il allait y avoir de la violence. Ça, effectivement, c'était prévisible. Mais je pense qu'on a quand même, les observateurs, en tout cas, ont tous été surpris de voir à quel point les dispositifs de sécurité, notamment, ont été inefficaces dans la gestion de cette manifestation. Et la production des images ahurissantes qu'on a vues de ces manifestants au Sénat, dans les bureaux de Nancy Pelosi, par exemple, ça quand même, je pense que c'était difficile à prévoir, que ça aille aussi loin.
Oui, on pensait pas effectivement que les forces de l'ordre seraient dépassées à ce point. Et d'ailleurs, on a appris hier la démission du responsable du service de sécurité du Capitole. Laurie Kenton, qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Est-ce qu'on peut essayer de mettre des mots sur tout cela? Est-ce que c'est une insurrection? Est-ce que c'est un assaut? Est-ce que c'est un coup de force politique? Est-ce que c'est une manifestation justement mal maîtrisée? Seulement ça? C'est quoi, Laurie Kenton?
Ce n'est pas un putsch et ce n'est pas un coup d'État, c'est très important d'insister là-dessus. Ensuite, on peut se poser des questions sur un certain nombre de termes. Une manifestation qui a dépassé les objectifs attendu peut-être naïvement par Trump, ça c'est une certitude. Je pense que Trump est assez surpris en fait de la concrétisation qui était tout à fait prévisible d'une certaine manière, mais qui a été rendue possible, comme le disait Tamara Boussac, par l'inefficacité absolument déconcertante des services de sécurité. On se souvient, il y a encore pas très longtemps, des manifestations Black Lives Matter où on a vu des déploiements sécuritaires qui étaient totalement impressionnants, déploiements sécuritaires de forces armées qui sont militarisés. Ce ne sont pas quelques petits gardiens de la paix armés d'un bâton. Les forces de police, quand elles veulent interdire l'accès à un endroit, elles le font de manière assez, convaincante. Donc là, on est surtout surpris par par l'intrusion, en fait, par la facilité de l'intrusion. Mais ce qui est important, c'est que ça n'est pas un coup d'État parce qu'il n'y a pas de projet politique. On a des gens qui sont, en gros, le dernier carré des extrémistes trumpistes, parce qu'ils sont pas si nombreux que ça, finalement. Et en plus, il y en a pas mal qu'on connaît, parce que ce sont des leaders, certains de groupes néo-nazis, certains de groupes QAnon. Donc ce sont des gens qui sont assez bien connus. Ils sont pas très nombreux, ils sont très déterminés. Ça ne représente pas l'électorat de Donald Trump. Ça ne représente même pas forcément le trumpiste moyen. Ce sont des gens qui étaient surtout là pour faire parler d'eux, pour envoyer un message et pour prendre des selfies, la plupart. Il y en a quelques-uns qui ont fait des dégradations spectaculaires, ça c'est vrai, mais la plupart étaient là comme on va à Disneyland.
Attendez, ils étaient là aussi parce que Donald Trump les y a poussés. J'entends l'idée que c'est pas un coup politique, etc. Mais il y a quand même une intention, Laurie Kenton, politique derrière Donald Trump. Ou alors on comprend rien.
Alors, il y a deux choses. Il n'y a pas eu que Trump qui a parlé. Trump a parlé, longuement et a parlé dans des termes dénués de toute ambiguïté. Il y a eu aussi.
Mais c'est quand même lui qui a dit marchons sur le Capitole.
Oui, bien sûr. Il y a eu. On oublie qu'il y a eu avant Giuliani qui a parlé de combat. Donc il y a eu des mots qui sont dénués de toute ambiguïté, que certains ont compris parce qu'ils l'avaient anticipé, et qu'ils avaient même des t-shirts où il y avait marqué quand même « guerre civile 6 janvier 2021 », donc il y avait des gens qui étaient quand même très très préparés là-dessus. Ouais. Ça, c'est absolument indéniable. Mais je pense qu'il y a une certaine naïveté, parce que dans tous les rassemblements qu'on a vus, notamment à Portland par exemple, où il y a une démonstration de force de Trumpistes sur des pick-up, ils étaient armés de fusils d'assaut, ce genre de choses, là on avait aussi tous les éléments pour que ça dégénère. Il y en a un qui a été abattu d'ailleurs. Donc on aurait pu avoir des représailles et ça aurait pu devenir un véritable bain de sang. Ça ne l'a pas été. Et je pense que Trump tablait là-dessus. Ouais. Très naïvement, hein, encore une fois. Mais je pense qu'il tablait sur une démonstration pacifique, peut-être un peu tendue à l'extérieur, et il ne pouvait pas prévoir, à moins, alors là, l'enquête le dira ensuite, est-ce qu'il y a eu des complicités? Est-ce que le service de sécurité a été volontairement amoindri pour qu'il y ait cette intrusion? Ça, rationnellement, me semble incongru. Oui. Mais alors, où en est le rationnel?
Tout à fait, où en est le rationnel? Tamara Boussac, justement, est-ce que il vous semble que ce type de dérapage est encore possible, est encore à craindre dans les jours, dans les semaines, dans les mois qui viennent? On a quand même eu là un assaut sur le Capitole. C'est quand même pas tous les jours qu'on a ce genre de choses. Les médias américains ont largement rappelé que la dernière fois que le Capitole avait été envahi, c'était en 1814, quand les troupes britanniques avaient incendié tous les édifices publics. Alors on était dans un cas très particulier, évidemment, c'était la guerre de 1812, c'était cette seconde guerre d'indépendance. On n'est pas là, mais quand même, on est dans une situation qui a, on le sent, quelque chose d'historique. Et puis il faut rappeler peut-être aussi que la guerre de sécession, elle a été déclenchée par le refus des États du Sud de reconnaître la victoire d'Abraham Lincoln. Alors est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, un scénario de soulèvement généralisé, avec des partisans pro-Trump qui refusent la victoire de leur champion, est possible? Est-ce que c'est à craindre?
Alors, dans les prochains jours, je pense quand même que la situation va être un peu plus sous contrôle, parce que les événements du 6 janvier marquent un précédent extrêmement dangereux, bien sûr. Donc, la maire de Washington, notamment, a décrété un état d'urgence pour les 15 prochains jours dans la capitale fédérale. On peut aussi supposer que l'inauguration de Joe Biden, qui est très prochaine, va aussi se passer dans un contexte, dans un climat de sécurité maximale, pour justement éviter tout débordement. Mais de fait, beaucoup de ces manifestants qu'on a vu il y a deux jours sont repartis chez eux. Voilà, beaucoup n'ont pas été arrêtés. Il y a eu beaucoup d'arrestations et de fait, il va y avoir des enquêtes et des arrestations qui vont être menées également. Donc ça peut marquer provisoirement un coup d'arrêt quand même à cette mobilisation très violente. Mais ces prochains mois, il est fort possible qu'on revoie ces manifestants. On les a déjà vus au cours de la présidence Trump en réalité. Hein. Quand on pense à ce qui s'est passé à Charlottesville à l'été 2017, on était sur le même genre de manifestation avec, comme on l'a dit, des groupuscules d'extrême droite, néo-nazis, Ku Klux Klan. Voilà, donc c'est une démographie qui est connue, qui va rester active, et notamment au niveau local. On peut imaginer que si dans les prochains mois, il y a des rassemblements Black Lives Matter dans les villes américaines, notamment au sud, c'est le genre de contre-manifestation qu'on peut voir. Donc, je pense que voilà, dans un premier temps, il va y avoir quand même des dispositifs de sécurité vraiment renforcés, surtout au niveau du Congrès et de la capitale fédérale. Mais après, dans quelques mois, bien sûr, l'activisme ne va pas retomber.
Ça reste une menace pour la sécurité du pays sur le moyen et sur le long terme. Marc Semo et puis ensuite Laurie Kenton. Marc Semo.
Oui, avec cette espèce de radicalisation de plus en plus, est-ce que Trump n'est pas en train, malgré tout, de se mettre hors jeu pour l'après? Parce que oui, il galvanise ce dernier carré d'ultra-Trumpiste, mais il perd de plus en plus de terrain et de crédit, y compris dans l'électorat Trumpiste.
Oui, et même les ultra-Trumpistes, d'ailleurs, Marc Semo, commencent un peu à le lâcher. Les fidèles parmi les fidèles, Mike Pence, Ted Cruz, voilà, le sénateur Lindsey Graham, qui a quand même lâché un Enough is Enough, qui a résonné dans l'hémicycle, voilà. On voit bien que ça... On commence
Alors,
à le lâcher.
J'en reviens à mon idée. Est-ce que c'est pas un suicide politique?
Laurie Kenton, suicide politique. Jusqu'où est-ce que là, Trump a peut-être effectivement perdu une part importante de ses soutiens et entamé d'une certaine manière son crédit pour 2024?
Je suis tout à fait d'accord. C'est pour ça que moi, je suis pas forcément favorable à un grand déploiement de sanctions là actuellement, parce qu'il reste pas assez longtemps. La principale sanction, en fait, il faut voir ça en termes de télé, comme toujours avec Trump. On est dans le final de la dernière saison de la série, et là, on a l'espèce de feu d'artifice, mais on est aussi dans la tragédie grecque. Et c'est le héros tragique qui apporte sa propre fin. Et donc là, ce qu'on voit, c'est que on a deux niveaux. On a les représentants politiques, Lindsey Graham, qui est le principal invertébré de la classe politique, notamment côté républicain. Il est là où est son intérêt. Faut pas oublier que Lindsey Graham, c'était quand même un grand ami de John McCain. Et donc, en 2016, c'était un anti-Trumpiste très virulent. Il faut se souvenir de ses propos. Et quand il a vu que son intérêt était avec Trump, il a complètement ravalé son estime de soi et il est devenu Trumpiste. Maintenant que Trump, ça n'est plus ce qui marche, qu'il est démonétisé, il n'est plus Trumpiste. Donc il faut se méfier de ça. En revanche, il y a eu un petit sondage dont j'attends des confirmations, qui montre que côté républicain, on est à 45-45. 45% des républicains disent que c'est normal, que c'est très bien, cette insurrection au Capitole, et 45% disent que c'est inadmissible. Et alors là, il faut voir une chose aussi, c'est que ce sont les gens qui se disent encore républicains. Mmh. Les républicains classiques, maintenant, se disent indépendants, parce qu'ils ne veulent pas être associés au trumpisme. Ça, c'est quelque chose qu'on connaît depuis plusieurs mois, voire plusieurs années. Mais parmi les gens qui se disent encore républicains, il y a des gens pour qui les symboles de la République, le Capitole, la Déclaration d'indépendance, le 4 juillet, ce sont des symboles pratiquement religieux. On parle de religion civile. Et donc, ce qu'on a vu le mercredi 6 janvier, c'est une profanation. Et donc, quand on profane le sacré pour des gens qui sont quand même des républicains historiques, c'est absolument inadmissible. Et donc, je pense que effectivement, le capital politique de Trump à droite vient d'exploser en vol de manière encore plus spectaculaire que tout ce que les démocrates auraient pu effectuer par le biais de sanctions vues comme outrageusement partisanes.
Tamara Boussac, il y a cette profanation du sacré, il y a évidemment le fait que Donald Trump arrive au terme de son mandat et que donc évidemment on a un certain nombre de personnes qui quittent le navire, ça c'est assez naturel, mais on a beau jeu aujourd'hui d'expliquer que Donald Trump va quitter la Maison Blanche et que donc nécessairement il va perdre son influence sur le parti conservateur, mais on oublie deux choses. La première, c'est que ça fait 4 ans en réalité que les observateurs expliquent que un jour ou l'autre, le parti finira bien par le lâcher, sauf que force est de constater qu'il a été derrière Donald Trump pendant toute cette mandature. Et second point, c'est que avant d'arriver au pouvoir, Donald Trump est arrivé de l'extérieur du parti et a avalé tout cru ce parti. Donc en réalité, il a encore cette capacité de refaire le coup, si je puis dire. Tamara Boussac, comment vous voyez justement les choses pour 2024? Est-ce que vous pensez que ce parti va tenter d'exfiltrer Trump et le trumpisme? Et est-ce qu'il le peut?
Oui, je pense que les événements du 6 janvier ont eu un effet transformateur, c'est sûr, sur l'influence de Trump et du trumpisme au sein du parti. La question du renoncement à Trump, elle se pose aujourd'hui au sein du Parti républicain comme jamais elle ne s'est posée en réalité, parce que voilà, le lendemain de l'élection, le parti était vraiment uni derrière Trump pour vraiment contester l'élection et porter des recours dans des tribunaux. Et puis, une fois que tous ces recours ont été rejetés, c'est là qu'on a vu une scission quand même se creuser au sein du parti entre ceux qui acceptaient le jeu démocratique constitutionnel et ceux qui restaient vraiment fidèles à Donald Trump, quitte en espérant un peu se faire adouber par lui et peut-être prendre la relève en 2024. Je pense que, comme on l'a dit, depuis le 6 janvier, il y a une marginalisation quand même de ce courant. Et en fait, il faut bien remettre ça en perspective, c'est-à-dire que s'il y a bien une chose que Trump a fait au Parti républicain, dans un sens, c'est que il l'a transformé en un parti d'opposition. En 2016, le Parti républicain était vraiment le premier parti aux États-Unis, aussi bien au niveau du Congrès de la Maison-Blanche et également au niveau des institutions locales. En 2018, les démocrates remportent la Chambre des représentants. Ça se confirme en 2020, en 2021. On a vu les élections en Géorgie. On a vu que le soutien à la loyauté aveugle envers Trump n'a pas suffi à faire réélire les sénateurs républicains dans cet État qui pourtant vote républicain depuis longtemps. Donc,
mais vous pensez vraiment que c'est l'effet Trump, ça, Tamara Boussac? Parce que ça peut aussi être l'effet tout simplement de l'exercice du pouvoir.
Oui, bien sûr. En tout cas, ce que je veux dire, c'est que là où on pouvait penser qu'il allait y avoir une espèce d'affrontement entre ces deux camps au sein du Parti républicain pour déterminer l'orientation et l'identité du parti ces 4 prochaines années. Là, je pense que quand même, le camp Trump, si on peut l'appeler comme ça, est aujourd'hui assez marginalisé. Et donc, pour 2024, bien sûr, lui, je pense qu'il espérait devenir un faiseur de roi et pouvoir éventuellement désigner un héritier comme Ted Cruz ou Josh Hawley, par exemple, qu'on a évoqué. Je pense que là, peut-être qu'on s'achemine vers une primaire qui sera très ouverte avec beaucoup de candidats, et d'ailleurs des candidats qui étaient déjà là en 2015-2016, hein, parce qu'ils étaient 17 à l'origine, pendant cette primaire, les dernières primaires. Donc, il est possible absolument que le champ soit très ouvert, justement.
Et ben alors, justement, Laurie Kenton, projetons-nous déjà, vous allez dire c'est très tôt, mais allons-y sur 2024 et formulons l'hypothèse que Trump ne sera pas candidat parce qu'il ne peut pas, parce que le clan Trump a été disqualifié, parce qu'il ne le veut pas. Enfin bref, faisons cette hypothèse-là. Pour autant, si Trump n'est plus là, le Trumpisme, lui, ne disparaîtra pas. Alors, quel avenir pour ce Trumpisme sans Trump? Et est-ce que vous voyez là déjà des figures qui aujourd'hui sont susceptibles de porter ce Trumpisme et éventuellement jusqu'à la Maison-Blanche?
Alors, il y a deux choses à distinguer. Il y a les idées politiques portées par un appareil, et le Parti républicain s'est fait complètement retourner au niveau doctrinal en 2016, dans le sens où le parti républicain était interventionniste en politique étrangère et libre-échangiste sur les questions économiques et favorable à une immigration qui permettait d'avoir une main-d'œuvre à bas coût, localement, par exemple en Californie. Et Trump a inversé le logiciel sur tous ces points-là. Le Parti républicain n'a pas résisté. Il a été complètement... C'est devenu un coucou dans un nid, hein, ce Trump. Donc là, la question qui se pose à chaque défaite, en fait, en 2008, 2009 et en 2013, le Parti républicain a eu l'intention de se réinventer. En 2009, il y a eu le Tea Party qui s'est inséré là-dedans, et donc l'aggiornamento a été complètement annulé. En 2012-2013, c'est pareil, il y a eu une tentative, et ça a échoué totalement, et Trump est arrivé ensuite, et donc là, la question va se reposer. Mais il faut choisir entre des options politiques, programmatiques, qui sont radicalement différentes. Entre protectionnisme et libre-échangisme, c'est quand même pas exactement la même chose. Donc ça, c'est la première question qui va se poser au niveau de l'appareil. Mais la grande question, c'est celle de l'électorat, de ces 74 millions d'électeurs. Et évidemment, les fidèles, en fait, lors de la cérémonie au Congrès, il y a le 6, en fait, c'était pas tant les résultats qu'ils contestaient, c'était la loyauté qu'ils témoignaient à l'égard du chef, vis-à-vis des électeurs sur lesquels ils comptent en 2024. Tout ça, c'est du spectacle. Et c'était de l'investissement sur l'avenir. Ils ne voulaient pas insulter l'avenir. Et donc, le problème de ces gens-là, c'est que eux, on a beaucoup évoqué cette question du déclassement. Ils ont peur de la mondialisation, ils ont peur du déclassement, etc. Après, à tort ou à raison, ça n'est pas à nous de le dire. Ça informe leur vote. Et donc, en tant que responsable politique, on doit se dire, déjà, quelles sont mes idées, mais au-delà de ça, sur quelles idées je gagne, que veulent les électeurs? Et là, il y a toujours une espèce d'ambiguïté au niveau des républicains. Il y a les républicains old school qui sont ceux qui se sont fait un petit peu dynamiter par le Trumpisme. Et puis il y a ce corps de doctrine complètement anti-républicain d'une certaine manière, extérieur au camp républicain, qui est quand même largement partagé par une partie de l'opinion. Donc, on est dans un problème qui est un problème de mode de scrutin. En réalité, c'est pas très marrant, mais le mode de scrutin majoritaire fait que les partis, parti conservateur en Grande-Bretagne, parti socialiste en France, sont des grandes coalitions instables qui parfois finissent par exploser, mais qui doivent réconcilier des contraires. Les deux gauches irréconciliables de Manuel Valls, on a ça en Amérique aujourd'hui.
Alors, on va laisser la question du système électoral, parce que c'était une question que je voulais évoquer avec vous, mais un tout petit peu plus tard, si vous le permettez. Il y a aussi la victoire des démocrates du côté de la Géorgie qu'il faut évoquer, mais d'abord, Marc Semo, vous vouliez réagir, vous vouliez évoquer cette question du poids des suprémacistes dans le Parti républicain, et puis ensuite on passera à la Géorgie.
La réalité de la pénétration de cette extrême droite au sein du Parti républicain, et même de cette théorie du grand remplacement que la France maintenant a exporté aux États-Unis et qui apparemment fait florès.
Tamara Boussac.
Oui.
Vous avez entendu la question ou pas du tout?
Ah non.
Alors, Laurie Kenton, vous l'avez entendu, je vous laisse répondre.
Sur, alors, c'est pas forcément la théorie du grand remplacement. En fait, c'est pas elle qui a été exportée en tant que telle. C'est pas les Américains sont pas tous des grands lecteurs de Renaud Camus. C'est une sorte de sentiment qui a été assez largement cultivé dans toute une littérature des années 90, début 2000, en partie par Samuel Huntington, mais pas uniquement sur une réalité qui est constatable aux États-Unis, c'est-à-dire que la composition démographique des États-Unis passe de 90% de blancs à des projections qui, autour de 2050, laissent entendre que les blancs seront minoritaires. Ils sont déjà minoritaires dans certaines classes d'âge. Donc c'est une réalité, c'est pas un fantasme. Et certains voient ça comme quelque chose de tout à fait perturbant. Surtout quand on leur dit, vous êtes blanc, c'est pas bien, vous êtes forcément raciste. Donc et quand vous êtes des hommes, vous êtes forcément des phallocrates, des salauds, etc. Donc il y a des gens qui réagissent un petit peu négativement à ce genre d'injonction, mais c'est pas tous. Et le problème, c'est quand les démocrates sont particulièrement virulents et parfois caricaturaux sur ce type de discours, il y a des gens qui se sentent insultés. Et donc, il y a un problème essentiel en politique qui est l'estime de soi. Quand vous foulez au pied l'estime de soi d'un certain nombre de gens, même quand vos intentions sont bonnes, il faut pas vous attendre à ce qu'ils vous disent « Ah, vous avez raison, je dois être un salaud, et donc je vais voter pour vous ». Donc, ce à quoi on assiste, c'est une forme de rejet plus ou moins conscient de tout ça, mais ça ne veut pas dire pour autant que ce sont des gens qui sont des nazis, etc. Même s'il y en a, ça reste un tout petit nombre. Les suprémacistes blancs, ça reste un tout petit nombre.
Tamara Boussac, on vous a retrouvé.
Oui, c'est il y a effectivement plusieurs degrés, bien sûr, de racisme ou de langage codé qui va un peu attiser ce genre de ressentiment. Quand Trump et d'autres, bien sûr, parlent de garantir la loi et l'ordre dans les villes américaines quand il y a des manifestations Black Lives Matter et que des républicains applaudissent, c'est bien évidemment parce que ils ont en tête ces stéréotypes des Africains-Américains dangereux qui sèment le désordre dans les villes quand ils manifestent. Et ça, on va dire que c'est peut-être quelque chose, c'est une rhétorique qui est relativement acceptable aux yeux des républicains modérés qui, bien sûr, ne se pensent pas comme racistes, bien sûr. Et la question des suprématistes blancs, on voit bien que, par exemple, dans les manifestations qu'on a vues il y a quelques jours et qu'on a vues avant aussi, toute la symbolique qui est mise en œuvre montre qu'ils sont dans une défense d'une Amérique fantasmée, d'une Amérique blanche et qui, selon eux, devrait rester blanche, bien sûr. Donc, même si, bien sûr, c'est une minorité, et c'est pas une minorité qui va définir l'ADN du parti, c'est forcément présent, oui.
Alors, c'était un résultat qui était très attendu depuis des semaines. On en parle très régulièrement ici à ce micro, mais qui a été assez largement éclipsé par les événements au Capitole dont on vient de parler. Mais il se trouve que du côté de la Géorgie, un État traditionnellement conservateur, eh bien, c'est finalement les deux candidats démocrates qui l'ont emporté, Raphaël Warnock et John Ossoff. Donc, on va avoir un Sénat qui va basculer dans le camp démocrate. Laurie Kenton, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que Biden va pouvoir désormais appliquer son programme à l'envi. Il va pouvoir faire passer toutes les lois qu'il veut sans exception, il a les mains totalement libres, Laurie Kenton.
Disons qu'il a les coudées franches, effectivement, parce qu'il va pouvoir utiliser le Congrès pour légiférer. Si on avait été dans une situation de cohabitation, en fait, il aurait pu gouverner que par décret présidentiel et par, en gros, de la régulation par les ministères sur des normes environnementales ou ce genre de choses. C'est possible, mais ça reste quand même très limité. Et ça aurait voulu dire que l'activité au Congrès aurait été totalement nulle. Là, on va avoir, une marge de manœuvre un peu supérieure. Mais il faut quand même faire attention à une chose, c'est qu'on a des midterms qui arrivent après-demain, c'est-à-dire en novembre 2022, qu'elles sont généralement très défavorables aux partis au pouvoir, que les démocrates et Joe Biden en sont particulièrement conscients, parce que Joe Biden était vice-président lors des deux défaites de 2010 et 2014, et que ça, c'est systématiquement accentué par ce qu'on appelle en sciences politiques aux États-Unis « overreach », c'est-à-dire quand vous en faites trop. Donc un programme qui serait trop ambitieux, trop à gauche, serait suicidaire pour les démocrates parce que ça rendrait une élection qui se présente déjà relativement mal en désastre. Donc il va falloir faire très attention parce qu'il y a aussi un certain nombre de sénateurs démocrates conservateurs, il en reste, Joe Manchin en Virginie-Occidentale, qui sont pas prêts à tout voter. Sur les nominations, tout le monde, y compris les républicains, est prêt à donner une chance à la plupart des nominations qui ont été suggérées. Il y en a certaines qui font un peu débat, mais ça devrait passer. Évidemment, si c'est trop à gauche, par exemple un Bernie Sanders, ça risque de coincer. Mais il faut distinguer les nominations, et notamment les juges, ça va être très important, et c'est le principal changement qu'implique le Sénat, du programme, en fait, et des réformes.
Tamara Boussac, un mot peut-être sur cette marge de manœuvre de Biden, parce que Laurie Kenton a raison de nous rappeler que faut pas oublier qu'on a quand même un parti démocrate où il va y avoir évidemment des tensions entre une aile très à gauche, une aile beaucoup plus au centre. Par ailleurs, même la frange la plus centriste ne sera pas forcément toujours derrière Joe Biden, qui lui incarne précisément cette partie du centre du parti démocrate. Joe Manchin, que mentionnait Laurie Kenton par exemple, de l'État de Virginie-Occidentale. Il va, par exemple, défendre bec et ongle l'industrie minière. Et donc, il ne laissera pas tout faire non plus, Tamara Boussac.
Oui, absolument. Alors là, pour l'instant, Joe Biden va évoluer dans un environnement institutionnel qui lui est plutôt favorable, comme on vient de le dire. Et s'il y a bien une chose que les démocrates disent en ce moment, c'est qu'il faudra agir vite, parce qu'effectivement, les midterms arrivent très rapidement, et que donc si la majorité des démocrates veut adopter des lois de grande ampleur, c'est maintenant qu'il faut le faire, parce que plus tard, il est possible qu'ils n'en auront pas la possibilité. Cependant, il y a quand même des exemples où, malgré le fait que le président et le Congrès soit du même parti, il y a quand même beaucoup de blocages. On peut penser par exemple aux premières années de la présidence Bill Clinton, où après 1992, Clinton était démocrate, le Congrès était démocrate aussi, et ça a été assez désastreux. C'est-à-dire que il y a des grandes lois qui avaient été mises en œuvre par Clinton, notamment une réforme du système de santé, et qui n'a pas abouti parce que les démocrates ne se mettaient pas d'accord. Et donc là, c'est vrai que l'unité du parti, elle va être absolument, ça va être une question clé pour la réussite de Biden et du Congrès également. Et je pense qu'il y a un vrai risque de déception chez les démocrates qui sont les plus à gauche, voilà, qui se réclament du socialisme. On peut penser, alors on a dit Bernie Sanders, Alexandria Ocasio-Cortez, pardon. Alors voilà, c'est sûr que là il va falloir réussir à maintenir l'unité du parti, parce que il y a quand même des fractures au sein du parti démocrate, et notamment une fracture générationnelle. Voilà. Donc il faut voir comment ça va se passer, mais c'est sûr que c'est une question cruciale.
Ouais. Pour revenir peut-être sur les faiblesses de la démocratie américaine, parce que au-delà des accusations de fraude absolument non démontrées, mais dont en tout cas sont convaincus une large frange des partisans de Donald Trump, ce qui a posé aussi problème dans cette élection, Laurie Kenton, c'est le fait que malgré ces 7 millions de voix de retard sur Biden, eh bien Donald Trump aurait pu l'emporter en retournant un peu plus de 32 000 votes par le jeu des grands électeurs. C'est d'ailleurs, c'était très bien rapporté d'ailleurs par Le Monde cette semaine. Qui expliquait que il y avait 0,02% des électeurs qui auraient pu faire basculer cette élection. Alors, cette fois, Trump a perdu, mais souvenons-nous que contre Hillary Clinton, c'était l'inverse. Il avait emporté avec moins de voix que sa concurrente. Donc, on voit que là, il y a peut-être un problème plus profond dans le système électoral américain. Est-ce que c'est quelque chose, Laurie Kenton, dont on parle, dont on a conscience aux États-Unis? Est-ce que, pourquoi pas, on pourrait imaginer une modification de ce système, tant on voit là qu'il fait vaciller quand même cette démocratie, Laurie Kenton?
Alors, je vois deux choses. En fait, il y a une première chose qui est le poids, la disproportion de la Californie. Quand on regarde les résultats, en fait, les millions de voix, par exemple, là, il y a 7 millions de voix de différence, mais il y a 5 millions de voix d'avance en Californie. C'est-à-dire qu'il n'y a plus que 2 millions de voix d'avance sur le reste. Et quand on regarde 2016, en réalité, dans les 49 autres États, Trump est en avance d'1,5 million, et avec la Californie, c'est Hillary Clinton qui a l'air d'être en avance partout. Et en fait, c'est une illusion d'optique. Comme on peut gagner un État avec une voix, si elle emporte la Californie avec une voix, bah finalement, elle est très loin derrière, malgré tout. Donc le problème, c'est le problème du fédéralisme, d'un système qu'on considère comme anachronique. Chez les démocrates, on veut l'abolir pour un système qui serait un système, en fait, à la française, d'un État unitaire, où toutes les voix comptent et celui qui a la majorité populaire l'emporte. Et le problème, c'est que on n'est pas dans un État centralisé, unitaire, comme la France. Donc il y a un véritable débat.
Je vous comprends pas, Laurie Kenton. On peut pas conserver le fédéralisme en modifiant le système électoral.
Alors, on peut faire un système un petit peu intermédiaire. Il ne s'agit pas forcément de supprimer le collège électoral, mais on peut. Il y a une action actuellement qui vise à attribuer les grands électeurs non pas à celui qui gagne l'État, mais à celui qui gagne l'ensemble. Donc, il y a aussi des systèmes qui sont un petit peu intermédiaires. Il y a un débat actuellement. Les démocrates, en tout cas la plupart des démocrates, sont favorables à l'abolition collège électoral. Les républicains y sont défavorables parce que structurellement ça les avantage. Mais attention, structurellement ça les avantage, ça n'a pas empêché Obama de l'emporter deux fois d'affilée. Et n'oublions surtout pas, quand on parle du Sénat, parce que c'est un petit peu la même chose, on dit souvent, oui, le Sénat avantage largement les petits États ruraux et montagneux, donc les républicains. Oui, d'accord, mais en 2008, Obama a 59 sénateurs. Donc ça veut dire que malgré ce système dysfonctionnel, anachronique, etc., il est possible pour les démocrates d'avoir 59 sénateurs. Donc, c'est-à-dire que le système fonctionne quand même un tout petit peu parfois.
Tamara Boussac, sur ce point.
Oui, l'un des problèmes aussi du collège électoral, c'est que la représentation n'est pas proportionnelle. C'est-à-dire que quand un candidat remporte un État, ça ne change rien s'il l'a remporté à 50,01% ou à 99% des voix dans l'État. Il remporte, quel était son score, l'ensemble des grands électeurs de cet État. Donc du coup, quand on ajoute tout ça, ça peut faire des différences énormes en fait. C'est de là que vient aussi la distorsion entre vote populaire et vote du collège électoral. Il y a deux États qui fonctionnent à la proportionnelle, c'est-à-dire qui accordent un nombre de grands électeurs proportionnel au vote réel. C'est le Nebraska et le Maine. Et peut-être que là, bon voilà, c'est l'un des... Là, on est du coup peut-être plus proche du vote réel et c'est l'un des enjeux, je pense, peut-être.
Au-delà de ce problème-là, est-ce que c'est aux États-Unis un sujet dont on parle ? Parce que nous, évidemment, depuis la France, c'est un sujet qui nous paraît... c'est un système qui nous paraît assez étonnant, pour le moins. Et d'ailleurs, on ne manque aucune occasion de le souligner. Mais du côté des États-Unis, on considère que oui, il y a un problème et oui, il faut changer la règle du jeu, ou on se dit, bon, bah voilà, les règles sont comme ça et il n'y a pas de raison de les changer, Tamara Boussac ?
Il y a beaucoup de gens qui pensent que les règles sont comme ça et qu'il n'y a pas forcément besoin de les changer, notamment en 2016, hein, de fait, où il y avait eu cette distorsion entre vote populaire et résultat de l'élection. Beaucoup disaient, mais oui, mais le système, il est connu des élus, il est connu des équipes de campagne. Les campagnes doivent être menées aussi compte tenu de cette réalité et cibler les attaques clés, voilà, qui pourraient faire basculer l'élection. Donc, je pense qu'il y a beaucoup de problèmes démocratiques qui se posent aux États-Unis. Mmh. L'un dont on parlait peut-être plus, en tout cas il y a quelques années, c'était une réforme du Sénat pour réformer la question du filibuster, c'est-à-dire les possibilités pour les sénateurs de faire des obstructions très longues qui rendent très dur l'adoption des lois. Ça, je sais que c'était vraiment quelque chose qui était vraiment invoqué par les juristes progressistes, peut-être plus à ce moment-là que la question du collège électoral.
Laurie Kenton, 30 secondes. La Géorgie, je le disais, plutôt républicaine. Ça faisait depuis 92 qu'il n'y avait pas eu de représentant démocrate dans cet État. Vous pensez que c'est une double victoire qui est liée à une mobilisation particulièrement forte des démocrates, ou on est sur un basculement un peu plus durable, Laurie Kenton ?
Les deux. C'est-à-dire qu'on est sur un basculement démographique qui est indéniable, mais ce basculement démographique, si vous ne le traduisez pas en vote, il ne vaut rien. Vous avez des géants endormis qui sont nombreux dans la population, mais qui ne votent pas. Donc là, il faut souligner l'effort de mobilisation, notamment de Stacey Abrams, mais pas uniquement, depuis des années, dans cet état de Géorgie. Et donc, c'est une véritable victoire démocratique, pas seulement pour les démocrates, mais pour la démocratie. On a énormément de gens qui ont voté en 2020, malgré la pandémie. The whole day through, just an old sweet song keeps Georgia on my mind. Georgia on my mind. I said, Georgia, Georgia. A song of you comes as sweet and clear as moonlight through the pines.
Un grand merci à nos invités, Laurie Kenton, Tamara Boussac. Je rappellerai vous concernant Laurie Kenton que vous venez de publier aux éditions Vendémiaire Le rêve américain à l'épreuve de Donald Trump. On mettra évidemment la référence sur la page de Culture Monde. Un grand merci également à Marc Semo, notre partenaire du Monde, comme chaque vendredi. On vous retrouve la semaine prochaine. Dans un très court instant, c'est Lucille Comeau et la critique.
France Culture. L'esprit d'ouverture.